Vous écoutez IDFM, il est 10h. Bonjour à toutes et à tous, Audrey Lamoli et je suis ravie de vous retrouver sur IDFM dans l'émission La Parole aux Associations, une émission dédiée aux associations et à ceux qui les font vivre. Cette semaine, je reçois non pas une, mais trois associations et nous parlerons bénévolat de compétences. D'abord avec Passerelles et Compétences, association qui se donne pour objectif d'aider les associations de solidarité de toute la France dans le développement de leurs projets, en leur proposant des bénévoles à forte expertise. Sont avec nous également l'ARS 95, association qui accompagne les publics en fragilité vers la réinsertion sociale, et le cours Charlemagne, une école argenteuillaise pas comme les autres. Vous nous raconterez notamment comment le bénévolat s'articule et prend forme au sein de vos structures respectives. Et pour nous parler de ces trois associations, j'accueille ce matin Alain Tuileau, responsable associé de l'antenne valdoise de Passerelles et Compétences, ainsi que Carole Martin, directrice du pôle insertion de l'ARS 95, et Hugues de Vieille, directeur du cours Charlemagne. Bonjour à tous les trois et bienvenue dans l'émission.
Bonjour.
Bonjour, bonjour Audrey.
Au sommaire de cette émission, je vous propose d'abord de découvrir nos invités dans la rubrique Portrait d'engagé. Puis Alain, Hugues et Carole nous présenteront plus concrètement ce que font leur association et de quelle manière s'est mis en place ce bénévolat de compétences proposé par Passerelles et Compétences. Alors tout d'abord, je vous propose de faire votre portrait d'engagé pour mieux faire votre connaissance, si bien sûr vous en êtes d'accord.
Avec
ça
plaisir.
Vous va? Eh bien, je vous propose Alain de commencer à nous... Voilà, si vous pouvez nous présenter un petit peu votre parcours en dehors de Passerelles et Compétences, dans un premier temps.
Bien, j'ai 67 ans, ça fait 35 ans que j'habite la vallée de Montmorency, donc je commence à bien la connaître, et je suis à la retraite depuis maintenant 4 ans. Au niveau professionnel, j'ai exercé dans les métiers de l'informatique. J'ai été directeur des systèmes d'information de plusieurs groupes financiers en France et à l'international. Ce qui m'a permis de rencontrer des gens d'horizons divers et de cultures diverses. Durant cette activité professionnelle, j'ai eu plusieurs engagements bénévoles. J'ai été conseiller municipal, j'ai été trésorier d'un club sportif. Sur la paroisse, j'ai animé la préparation au mariage, la préparation au baptême. Donc plusieurs engagements de durée différente qui se sont arrêtés, souvent pour des raisons professionnelles. Départ à l'étranger, changement d'entreprise, changement de poste. J'ai trouvé difficile de concilier un engagement permanent bénévole et une activité professionnelle, une vie familiale. Au moment où j'ai pris ma retraite, il y a maintenant 4 ans, je me suis posé la question, c'est quoi mon projet pour cette nouvelle phase de vie? J'étais, on va qualifier ça un peu hyperactif, hyper engagé, professionnellement, sportivement. Et donc, que faire des années qui s'ouvraient devant moi? Alors, bien sûr, passer plus de temps avec la famille, bien sûr, reprendre, se cultiver. Mais j'ai voulu trouver des opportunités pour donner du sens, pour aider. Je pense avoir eu de la chance dans ma vie. Et donc, je me suis dit, comment aider les autres? J'ai d'abord commencé à m'engager dans une association qui s'appelle Solidarité Nouvelle Face au Chômage, comme accompagnateur de personnes en recherche d'emploi. Et là, ça a été une expérience où j'ai découvert la profonde solitude de certaines personnes qui sont en recherche d'emploi. Alors bien sûr, il y a Pôle emploi, il y a l'APEC qui les accompagne, mais pour certaines personnes, pas toutes, il y a un sentiment de solitude et de perte de sens. Et donc le rôle de l'accompagnateur que j'avais, c'est bien sûr de les aider à préparer leurs projets, leurs démarches, mais surtout faire qu'ils soient moins seuls. En parallèle, je suis allé m'engager dans une autre association qui s'appelle Initiative 95. Et là, j'ai été parrain bénévole de créateurs d'entreprises. Autre chose, à l'autre bout du spectre. Là, j'ai rencontré des gens en pleine dynamique de création et reprise d'entreprise. Et ça a été pour moi l'opportunité de découvrir, en fait, ce monde-là. Moi, je viens du monde de la grande entreprise. Au niveau d'Initiative 95, c'est plutôt des petites entreprises, des artisans. Et j'ai découvert aussi tout le système d'aide à la création qui a été mis en place hein, au niveau des collectivités, au niveau du Conseil général. Voilà. En 2019, oui, je pense que c'est 2019, ouais. J'ai été contacté par Passerelle et Compétences. Voilà, j'avais déposé mon curriculum vitae sur une plateforme qui s'appelle Tous Bénévoles. Et une personne du Val d'Oise a vu mon CV, m'a contacté et m'a proposé de rentrer chez Passerelle et Compétences comme passerelle. Alors passerelle, ça veut dire quoi chez Passerelle et Compétences? Ça veut dire gérer la relation entre des associations solidaires qui adhèrent à Passerelle et Compétences et qui recherchent des gens, des disponibilités, des compétences pour mener leurs projets et des bénévoles, plutôt en activité professionnelle, qui sont prêts à consacrer de leur temps pour aider les associations solidaires. La passerelle, en fait, elle met en relation les associations et les bénévoles.
Et alors j'imagine que c'est dans ce cadre-là que vous avez rencontré Carole et Hugues, dans le cadre de Passerelle et Compétences.
C'est tout à fait dans le cadre de Passerelle et Compétences que nous sommes, enfin, l'antenne du Val d'Oise hein, a collaboré au travers de projets avec les deux associations dont vont nous parler plus tard Carole, donc Cousumain, et Hugues, le cours Charlemagne.
Alors voilà. On va présenter les associations dans pas très longtemps, mais avant, est-ce que Carole, par exemple, merci Alain pour la présentation de votre parcours. Carole, est-ce que vous voulez bien vous prêter au même exercice de présentation de votre parcours? Puis après, on prendra le temps de parler de vos associations, bien sûr.
Eh bien, écoutez, moi, je suis Carole, j'ai 47 ans. Et en effet, moi, j'ai toujours été aussi dans le Val d'Oise. C'est mon territoire, on va dire, de jeu personnel et professionnel. Alors, j'ai un parcours un peu atypique, enfin en tout cas je le dirais comme ça, puisque j'ai commencé comme animatrice socio-éducative et puis au fur et à mesure du temps qui passe je me suis rendu compte dans mes différentes activités professionnelles qui ce qui m'intéressait finalement c'était la relation humaine. Il n'y a rien qui me fait le plus kiffer, comme disent les jeunes, que de rencontrer des nouvelles personnes et d'apprendre à les connaître et de comprendre leurs envies. Et finalement, ce fil rouge m'a amené à travailler dans différents services, à devenir travailleur social. Donc j'ai repris mes études régulièrement au cours de mon parcours professionnel. Une première fois en 2007 pour devenir éducatrice spécialisée, après 8 ans donc, d'animation socio-culturelle. Et finalement, j'ai vieilli, et au fur et à mesure que je vieillissais, je travaille avec des personnes de plus en plus vieilles, c'est marrant, enfin, de plus en plus vieilles, ou de moins en moins jeunes, ça dépend de quel côté on se place. Donc j'ai travaillé dans la protection de l'enfance, et j'ai commencé à mettre un pied dans l'insertion à proprement parler, en travaillant dans un service qui traitait justement de la question de l'accompagnement et de l'insertion de jeunes de 16 à 25 ans. Puis j'ai repris à nouveau mes études parce que j'ai quand même une question autour de l'économie sociale et solidaire, une envie aussi de travailler sur les questions de transition écologique qui me titillait, et puis l'envie de m'outiller à nouveau en termes de compétences. Donc j'ai repris un master au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers, tout en travaillant, tout en menant une vie de famille, enfin une vie de femme moderne. En 2016, si je ne me trompe pas, en parallèle d'un diplôme d'état d'ingénierie sociale, parce qu'il fallait quand même pas prendre le risque de s'ennuyer, et tout ça m'a amené à prendre la responsabilité d'un organisme de formation pour adultes autour de formation qu'on dit savoir de base, c'est-à-dire plutôt autour de la remise à niveau, que ce soit sur des questions de français, d'accès au numérique. Et au fil de tous ces de toutes ces expériences, j'ai rencontré Géraldine Blain, la directrice générale de l'ARS 95, et je rejoins l'équipe en 2020. Donc, ce qui sous-tend quand même toutes mes activités, c'est vraiment cette envie d'accompagner, et d'être accompagnée, hein, parce que je pense que c'est vraiment une question de collaboration, les êtres humains à s'émanciper et à en profiter au passage pour faire de même.
Et vous savez d'où ça vous vient, cette envie d'émanciper?
Vous avez du temps. Je suis pas sûre que ça vienne de mon éducation. Ça vient de. Alors, pour le coup, moi, j'ai grandi à Argenteuil. Je dois beaucoup à la mixité sociale que représentait cette ville dans les années 80. Enfin, j'en suis persuadée. J'ai grandi avec des gens de tous horizons autour de moi et c'était quelque chose de très naturel. Et au fil de ma vie professionnelle, et privée aussi, hein, j'ai pu toucher du doigt que il y a des rimes, enfin pas des rimes, mais comment dirais-je, des adages qui sont des objectifs plus que des choses réelles. C'est la question de l'égalité, de l'équité, et donc je crois que j'ai quand même une espèce de grande volonté de travailler à ça. C'est un peu orgueilleux, mais écoutez, on fait comme on peut. Hein.
Merci, Carole. Et Hugues, à vous de jouer sur d'où venez-vous, qui êtes-vous ?
Merci Audrey pour votre invitation tout d'abord, et merci à IDFM. Alors si je dois me présenter en quelques minutes, j'ai 59 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants, et j'ai travaillé pendant longtemps dans un environnement à la fois lointain du Val d'Oise et de l'éducation. Mais j'ai été très vite taraudé par ce sujet et alors que j'étais consultant en stratégie dans des grandes organisations internationales, devenant père de famille, j'ai mesuré la gravité de cette mission et c'est une gravité qui ne m'a depuis jamais quitté. Et j'ai pris ce rôle, cette mission, je crois, enfin avec beaucoup de sérieux. J'espère avec suffisamment d'humilité et avec le sentiment que c'était un travail incertain, d'artisan, mais qui était peut-être plus important que le travail que j'effectuais dans l'entreprise. Il y a une quinzaine d'années, fort de cette passion, j'ai lancé une collection de contenus audio, de CD au départ, qui racontait l'histoire des routes de France à travers des histoires courtes racontées par des gens comme Michel Galabru, Annie Dupéret, Véronique Janoux, avec l'idée d'être, si possible, enchanteur dans nos textes, en tout cas de fasciner les enfants par des histoires qui étaient joliment racontées et qui pouvaient en même temps les instruire. J'étais peut-être un peu là de cette rationalité permanente du monde et de la statistique. Et la société, qui s'appelait initialement Les Routes du Rêve, avait pour objectif d'instruire les enfants en les emmenant vers des mondes en même temps merveilleux. Il y a une petite dizaine d'années, j'ai entendu parler d'un réseau d'écoles qui s'appelait Espérance Banlieue et qui avait pour vocation d'aider des enfants dans des quartiers difficiles en leur apportant une éducation un peu différente. Quand je dis une éducation, c'est d'abord une instruction, mais j'y reviendrai probablement tout à l'heure. Et je me suis beaucoup renseigné sur ce réseau d'écoles et je me suis dit qu'un jour, j'aimerais bien y contribuer. Et j'ai eu l'occasion de rejoindre le réseau Espérance Banlieue et de prendre la direction du cours Charlemagne l'été dernier, en ayant quand même enseigné pendant quelques années auprès de personnes migrantes aux Mureaux. Voilà, dans les années précédentes, c'est arrivé.
Alors, vous êtes directeur du cours Charlemagne. Moi, j'ai envie de vous poser comme question, quel souvenir vous avez de l'école Vous étiez quel genre d'élève?
Ben, vous avez raison de me poser cette question, parce que ça m'arrive souvent lorsque... je suis dans la cour de récréation, les mains dans le dos, d'avoir ces images fugaces de mon directeur ou de mes surveillants lorsque j'avais 12 ou 14 ans qui arpentaient la cour et qui nous surveillaient. Donc cette image, elle me revient encore fréquemment. J'étais un élève finalement assez agité au regard de ce que je mesure de l'exigence qu'il faudrait avoir vis-à-vis de nos jeunes et qu'il faut avoir, parce que en fait je m'aperçois que c'est pas si simple ni de diriger une école mais surtout d'enseigner, et donc si je devais revenir en arrière je serais probablement un petit peu plus sage pendant les cours.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir bien voulu nous en dire un peu plus sur vous. Je vous propose de poursuivre notre conversation et de découvrir plus concrètement ce que proposent vos associations juste après avoir écouté Renaud avec Mistral Gagnant. À tout de suite sur IDFM.
M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon bec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Ton rire, comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères aux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous. Te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants et les Mistral gagnants.
Vous êtes toujours sur IDFM dans l'émission La Parole aux associations, où je reçois ce matin Alain Tuileau de l'antenne valdoisienne de Passerelle et Compétences, Carole Martin de l'Ars 95 et Hugues de Valavieille du cours Charlemagne. Alors Alain, est-ce que vous pourriez, alors vous avez commencé un petit peu à nous parler de Passerelle et Compétences, est-ce que vous pourriez nous représenter plus concrètement ce que propose votre association ?
Oui, d'abord, Passerelle et Compétences, ce sont des gens qui aident ceux qui aident les autres. Voilà, ça c'est notre motto, notre positionnement. C'est une association qui a été créée en 2002 et qui a pour positionnement de mettre en relation des associations solidaires qui ont des projets à mener et pas forcément les ressources pour les mener, avec des gens qui veulent faire du bénévolat, qui ont des compétences professionnelles et qui sont prêts à consacrer du temps pour aider des associations. Donc on est passerelle entre le monde de l'association solidaire et le monde des bénévoles. Au niveau national, Passerelle et Compétences, c'est 5000 bénévoles qui font partie de notre réseau. C'est 3300 associations que nous avons aidées. Concernant le Val d'Oise, c'est 330 associations et 160 bénévoles qui sont répartis sur l'ensemble du territoire du Val d'Oise. Les associations qui, avec lesquelles nous intervenons, avec lesquelles nous travaillons, nous les rencontrons. Hein, nous avons un premier contact, elles nous contactent parce qu'elles ont des projets. Donc on les rencontre, on parle de notre valeur, de notre charte éthique, et on parle de leurs projets. Et elles signent une convention avec Passerelles Compétences qui décrit le cadre d'intervention entre nos deux associations. Les associations du Val-d'Oise, elles ont des tailles très différentes. Ça va de la toute petite association, une personne seule qui décide de créer une activité d'entraide, jusqu'à des grosses associations qui peuvent faire partie de fédérations, comme Emmaüs ou les Restaurants du Cœur. Ça veut dire qu'on a des missions très différentes à mener, très différentes dans leur nature, très différentes dans la sollicitation, dans l'engagement que ça demande aux bénévoles, ce qui permet d'avoir un engagement sur mesure pour les bénévoles. Voilà.
Alors justement, sur ces bénévoles, quel est leur profil? Qui sont les bénévoles? On va parler du Val-d'Oise. Qui sont ces bénévoles du Val-d'Oise?
Alors, les bénévoles du Val-d'Oise sont principalement en activité professionnelle. Ils travaillent sur l'ensemble des métiers de la vie professionnelle, une forte représentation en métiers de la communication, du marketing, ça représente 30% de nos bénévoles. Une forte représentation aussi dans les métiers des systèmes d'information. Et ça couvre l'ensemble des compétences. Hein. On a des juristes, on a des RH. Voilà, donc ça couvre l'ensemble. Hein. C'est plutôt des gens en activité, historiquement 35-50 ans. Et par contre, on voit de plus en plus des jeunes qui nous contactent pour faire du bénévolat.
Voilà. Et vous connaissez leur motivation, ce qu'ils avancent en premier à venir proposer leur service?
Oui, la recherche de sens, la volonté d'aider, de contribuer à la vie sociale en dehors du monde de l'entreprise, et la recherche de solidarité et de sens. C'est la principale motivation des gens que nous rencontrons. Ils veulent, et au travers de ça, ils veulent aider le monde associatif, le monde de la solidarité.
Et est-ce qu'il y a des critères particuliers pour devenir bénévole au sein de Passerelles Compétences?
Des critères particuliers, non, on n'a pas de grille de critères. Passerelles Compétences, on n'est pas une plateforme. Hein. Il y a des plateformes qui existent, qui mettent en relation des associations et des bénévoles. Il suffit de s'inscrire comme bénévole et de dire j'ai envie de faire du bénévolat et voilà ce que je peux faire.
Comme France Bénévolat ou Tous Bénévoles, par
comme
exemple.
Comme Tous Bénévolat ou comme Je veux aider.gouv aussi. Hein. Tout à fait. Donc on n'est pas une plateforme. On privilégie le contact avec les personnes, que ce soit au niveau des associations ou avec les bénévoles. Donc en fait, on rencontre chacun des bénévoles qui ont envie de rentrer à Passerelles Compétences. On a un entretien individuel avec eux. On leur explique ce qu'on fait, on leur explique nos valeurs. Voilà. Et donc, plus que des critères, c'est le fait de rencontrer quelqu'un qui a envie de donner son temps, qui comprend le mode de fonctionnement de Passerelles Compétences, que je détaillerai peut-être un peu après, et donc comment ils vont pouvoir intervenir auprès des associations.
Allez-y, dites-nous comment. C'était ma question. Combien de temps ça dure? Est-ce que c'est des missions d'un an, deux jours? Comment ça se passe?
Alors, comme je le disais, on a une multiplicité d'associations. Et donc de missions. On a des missions qui peuvent durer quelques heures ou qui peuvent durer plusieurs jours sur plusieurs mois. Voilà. Donc ce qui permet aux bénévoles de trouver une mission à la hauteur de sa capacité de s'engager. Hein, voilà. Donc c'est vraiment un engagement à la carte que l'on offre aux bénévoles. Une association nous contacte, elle a un projet à mener, elle fait partie de notre réseau, elle dit voilà, j'ai un projet. Alors les projets, c'est refaire le site graphique, recruter un salarié, trouver un administrateur. Hein, on a plein de types de missions. On va, avec l'association, définir son besoin. Donc il y a une personne au sein de l'antenne, qu'on appelle une passerelle, qui va aider l'association à définir son besoin. Et ensuite, on va rechercher, au travers de notre réseau de bénévoles, des gens qui seraient susceptibles de mener cette mission, qu'on va présenter à l'association. Voilà. Et s'il y a un accord entre les personnes, entre l'association et le bénévole, la mission démarre. Et le bénévole n'est jamais seul durant la mission. C'est-à-dire que nous, en tant que passerelle, on continue à l'accompagner durant le déroulement de la mission, en faisant un point périodique, aussi bien avec l'association qu'avec le bénévole. Donc c'est vraiment un engagement à la carte quelque chose de sur mesure. Alors, au sein de l'association, on a des bénévoles qui consacrent plus de temps, les passerelles. Là, c'est un rôle d'animation de la structure passerelle et compétences, de mise en relation, comme je l'ai évoqué, des associations et des bénévoles. La passerelle, en fait, son rôle, c'est de rencontrer les associations, qui veulent rentrer chez nous, de cadrer les missions, c'est de rencontrer les nouveaux bénévoles, de leur expliquer comment on fonctionne, et ensuite de trouver mission par mission le bon bénévole pour l'association qui est en recherche.
Et est-ce qu'un bénévole qui réalise une première mission, alors peut certainement qu'il peut faire d'autres missions, quelle est la tendance générale de vos bénévoles? Est-ce que vous constatez que voilà, vous êtes sans cesse en renouvellement, en recherche de renouvellement du vivier bénévole? Est-ce que vos bénévoles réitèrent l'opération?
Alors, la majeure partie de nos bénévoles réitèrent l'opération. En fait, on a des bénévoles, on a toute une partie de la population, pas beaucoup, qui rentre en contact avec nous, qui dit qu'ils veulent faire du bénévolat et qui finalement ne s'engagent jamais. Donc ça, c'est un premier profil, pour plein de raisons. Finalement, ils ne sont pas disponibles comme ils le souhaitaient, ils ont d'autres projets. Par contre, ceux qui s'engagent, en général, font plusieurs missions. Ils peuvent avoir des trous. On a vu des bénévoles qui ont arrêté pendant plusieurs années, mais qui continuent. Ils nous disent qu'ils veulent continuer à faire partie de notre réseau. Et puis un jour, en fonction de la mission qui leur plaît, de leur disponibilité, eh bien, ils se réengagent. Voilà. Donc c'est plutôt des bénévoles qui se réengagent. Alors, vous disiez, est-ce qu'on cherche à renouveler notre vivier de bénévoles? Oui. On cherche à développer notre réseau de bénévoles. Parfois, on a du mal à trouver des bénévoles pour remplir les missions que nous confient les associations. Donc, on cherche à accueillir de nouveaux bénévoles. C'est pour ça qu'on cherche à se faire connaître, aussi bien sur les réseaux sociaux, sur Internet, que à se faire connaître par les collectivités locales, les mairies, pour qu'elles jouent un rôle de prescripteur par rapport à passer les compétences et qu'elles nous recommandent. Voilà.
Alors là, on parle bien de bénévolat de compétences et non pas de mécénat de compétences. Là, ce sont des professionnels qui interviennent vraiment bénévolement, c'est-à-dire en dehors de leur temps de travail et ne sont pas rémunérés
pour la mission. Pour la mission. Alors, on parle bien de bénévolat de compétences. C'est le cœur de l'activité de passerelle des compétences. C'est de faire des missions pour des associations. On a aussi, et le mécénat de compétences, c'est un peu différent, enfin c'est différent, ce sont des salariés d'entreprise dont l'entreprise leur propose de faire du bénévolat tout en étant pour des associations ou dans d'autres contextes, tout en étant rémunérés. Voilà, le mécénat d'entreprise, c'est les personnes sont rémunérées pour faire du bénévolat.
Ouais, en fait, elles réalisent leur... du coup, c'est plus du bénévolat, mais elles réalisent les missions, leur mission professionnelle habituelle, mais au sein d'une association.
Elles font des missions au sein d'une association, tout en étant rémunérées...
Restant salariées de l'entreprise.
Tout en étant salariées de l'entreprise. Donc, c'est ça, le mécénat de compétences. Mécénat d'entreprise. Et passerait les compétences à passer des accords avec un certain nombre d'entreprises qui, dans le cadre de leur politique RSE, responsabilité sociale et économique, veulent promouvoir le bénévolat auprès de leurs salariés. Parce que de plus en plus, les salariés cherchent du sens. Et donc, les entreprises, dans le cadre de la politique RSE, promeuvent le bénévolat. C'est-à-dire, sont prêts à payer leurs salariés pour que 2-3 jours, parfois plus, à temps plein, ils s'engagent auprès d'associations. Donc nous, on a des accords avec un certain nombre d'entreprises et on cherche à développer ça pour trouver des nouveaux bénévoles où on propose à ces entreprises nos missions. Voilà, on dit, voilà, il y a telle ou telle association qui a besoin d'un bénévole. Et donc, on contacte l'entreprise en lui disant, voilà les missions qu'on peut vous proposer. Est-ce que parmi vos salariés, il y a des personnes qui pourraient prendre ces missions-là? Voilà. C'est ce qu'on appelle le mécénat de compétences.
Donc, vous en faites un petit peu?
On en fait un petit peu,
mais
on a des accords.
Mais le gros de votre action reste avec... du bénévolat de compétences.
Tout à fait. Et ce qu'on développe aussi beaucoup, c'est un troisième volet, c'est le bénévolat de gouvernance. Là, c'est un peu différent, c'est aider les associations à trouver des administrateurs. Et donc, on a développé une approche qui passe par le diagnostic du fonctionnement du conseil d'administration de l'association avec le conseil d'administration. Quels sont les profils qui sont aujourd'hui dans le conseil d'administration? En fonction du projet associatif, quelles sont les compétences et les profils dont aurait besoin l'association pour se développer? Et ça, c'est une activité qui se développe de plus en plus. En fait, il y a 2 millions d'administrateurs actuellement en France qui sont renouvelés par mandat de 3 ans. C'est-à-dire que tous les ans, on cherche dans le monde associatif entre 500 et 700 000 administrateurs. Et la recherche d'administrateurs, c'est la première préoccupation des présidents d'associations.
Voilà. Ouais, ça, c'est un sujet, c'est un vrai sujet au sein des associations qui peut parfois amener à être obligé d'arrêter l'action associative. Donc, très bien, merci beaucoup Alain. Je vous propose de poursuivre notre conversation et de découvrir ce que propose le cours Charlemagne juste après avoir écouté Qu'importe de Juliette Armanet. On revient juste après sur IDFM.
Défaites, sans foi dans nos têtes, par tous les temps, les vents, tous les cerfs-volants, envoyés, envolés, les ailes arrachées obstinément. T'avais aimé mon image, mage, la pluie sur mon visage, nos cœurs à l'aventure, scellés dans l'or pur. Tu m'as blessé, lassé, accroché, accroché, tu m'as aimé. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux. Pour chaque seconde au monde où j'entendrai ta voix sur la planète en tête à tête, toutes les nuits où je ferai la fête obstinément. Et si jamais ça m'embête, si jamais ça me rembête, si trop fort dans ma tête, tu, peut-être je me souviendrai que je t'ai cherché, je me souviendrai que je t'ai laissé, je me souviendrai que je t'ai aimé. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai.
Passe les pensées, passe les étés, passe tout le temps qu'il faudra tuer. Dans tous mes draps, tous mes états, dans tous les miroirs, si à moi. Passe les ratures, passe les futurs, sur le piano, les chevelures. Qu'importe.
Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai
êtes toujours sur IEDFM en compagnie d'Alain Tuilo, responsable associé de Passerelle et Compétences, Carole Martin, directrice du pôle insertion de l'Ars 95, et d'Hugues de Valavieille, directeur du cours Charlemagne, tous les trois réunis ce matin pour nous parler de la place dédiée aux bénévolats dans leur fonctionnement associatif. Alors Hugues, vous êtes le directeur du cours Charlemagne. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre établissement et ses particularités?
Bien sûr, avec plaisir. Donc le cours Charlemagne, il a été créé en 2017 à la demande d'Argenteuillet qui se sont tournés vers l'un des leurs, un homme très dynamique, qui est toujours d'ailleurs le président de l'association, qui s'appelle Marc-Henri Figuier. Et lui-même est entré en contact avec l'association Espérance Banlieue dont je parlais précédemment. L'idée étant d'installer une école d'un genre un petit peu nouveau dans un quartier dit difficile. Et donc, en 2017, le cours Charlemagne a vu le jour avec une vingtaine d'élèves. Aujourd'hui, il en compte 125. Nous allons du CP à la quatrième et nous ouvrons la troisième à la rentrée prochaine. Et nous avons pas mal de dossiers de candidature. En quelques mots, les spécificités du cours Charlemagne. D'abord, de petits effectifs. On essaie de ne pas dépasser 15 élèves par classe. Alors, parfois, on est à 16, mais on est effectivement des petits effectifs. Ce qui permet d'avoir une attention particulière à chaque enfant. Et là, on est déjà en train de rejoindre le sujet du bénévolat, parce que parfois, on peut avoir besoin de soutien de la part de personnes extérieures. Mais ça repose d'abord sur une équipe d'enseignants extrêmement motivés et très compétente. Et donc ces 15 élèves par classe peuvent être suivis d'une façon plus individualisée du fait du faible nombre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du point de vue éducatif, on attache de l'importance à un certain nombre de choses comme, et ça dès le CP, comme la courtoisie. Alors c'est un mot un peu désuet, mais c'est vrai qu'on est assez exigeant sur la nécessité de s'exprimer de façon respectueuse, mais dans les deux sens. J'insiste beaucoup, c'est-à-dire que nous vous voyons les élèves, ça aussi c'est quelque chose, moi j'ai toujours tutoyé mes enfants, mais je vous vois mes élèves, et les élèves nous vous voient. Donc on a ce vouvoiement réciproque, mais qui est la première marque d'un respect important et qui va dans les deux sens. Nos élèves portent un uniforme également. Ça aussi, c'est quelque chose qui est encore un petit peu rare, mais c'est vrai que ça évite de rentrer dans la course à l'échalote de la consommation. Je veux le dernier sweat, les dernières chaussures. Et voilà. Les parents, les familles de ce point de vue-là sont, je dirais, sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de course à la consommation. Il y a un point aussi important qui est les relations que nous avons avec les parents. C'est vraiment une coéducation. Alors quand je dis coéducation, il faut le dire avec beaucoup d'humilité parce que les premiers éducateurs sont les parents. Donc simplement, nous, on a bâti un règlement intérieur, il y a une charte des écoles Espérance Banlieue. Et donc, si les parents, au début de l'année, sont d'accord, et que dans ces cas-là, nous allons rentrer dans ce système de coéducation qui fait que l'enfant va pouvoir grandir en n'ayant jamais l'épaisseur d'une feuille de papier entre ce que diront les parents à la maison et ce que nous dirons à l'école. Et on essaie d'avoir un dialogue le plus fréquent possible, de façon à ce que cette éducation soit uniforme et que l'enfant n'entende qu'une seule voix, ce qui, pour lui, est quelque chose de probablement assez reposant, parce qu'il peut avoir confiance à la fois dans ses parents et puis, par délégation, dans ses enseignants et ses encadrants à l'école, qui disent la même chose pour son bien. Et le troisième pilier, c'est la citoyenneté. Donc les élèves, tous les matins, sont rassemblés, nous levons le drapeau français, nous chantons la Marseillaise, et ils ont beaucoup de visites, de sorties scolaires dans des monuments comme ils ont été au Panthéon, ils sont allés au Palais de la Découverte, on va aller sur les plages du débarquement avec nos CM2 et nos 6e, et voilà, ils sont allés une sortie, les petits sont allés une sortie à Maison Lafitte, les primaires également en fin d'année, pour leur montrer le beau, parce que le beau, ça fait partie de l'éducation, c'est quelque chose qui unifie aussi, et c'est pas parce qu'on est à Argenteuil qu'on n'aurait pas le droit d'aller visiter le Panthéon ou le château de Maison Lafitte, comme pourraient le faire d'autres enfants a priori plus privilégiés. Voilà, donc ça, c'est, ce sont les fondamentaux de notre école, en quelques mots malheureusement.
Alors ça, c'est pour les valeurs, c'est pour le cadre. Oui. Sur le fonctionnement, est-ce que ça fonctionne, j'allais dire, comme une école habituelle? En gros, comment ça se passe est-ce que vous êtes, est-ce que les programmes sont les programmes de l'éducation nationale ?
Vous avez raison. Alors, évidemment, j'ai dû commencer par les différences, mais d'abord, une fois de plus, par rapport à l'éducation nationale, d'abord, on en suit effectivement à la lettre tous les programmes. Nous sommes inspectés tous les ans et nous avons un infini respect pour tous ceux qui travaillent dans l'éducation nationale en tant qu'enseignants, parce que parfois, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, avec des effectifs plus nombreux, mais nous n'avons aucune prétention, nous, que de servir nos 125 élèves à notre petit niveau. Oui, nous suivons à la lettre les programmes de l'éducation nationale. D'ailleurs, les parents ne nous confieraient pas leurs enfants s'il en était autrement.
Alors justement, quelle est la place des bénévoles dans dans le fonctionnement
Elle est essentielle, la place des bénévoles. Pourquoi ? Parce que la place du jeu, par exemple, quelque chose qui est important pour nous. Dans la cour de récréation, il faut qu'il y ait beaucoup de monde parce que le jeu, c'est un élément qui permet, c'est une activité qui permet d'éduquer. Quand un enfant est avec des adultes et qu'il doit suivre des règles d'un jeu, il va être éliminé une fois, et il faut qu'il accepte cette frustration. Et pour ça, on a besoin d'être nombreux dans la cour de récréation et nos bénévoles servent notamment à ça. Quand je dis serve, évidemment ça peut paraître péjoratif, mais en tout cas ils concourent à ça en étant présents dans la cour. Ils sont également présents à l'heure des repas, puisqu'ils prennent leur repas avec nos élèves, et ils peuvent, selon leurs compétences, également avoir des activités de soutien. Ça, c'est pour un premier type de bénévole. Ce sont plutôt, en termes de profil, des 20-25 ans, que ce sont des jeunes qui ont absolument le feu et qui sont prêts à déplacer des montagnes pour que nos jeunes deviennent des super adultes bien dans leur pompe et ayant fait les études pour lesquelles ils étaient faits. Et on a d'autres types de bénévolat, bien sûr. On a eu par passerelle et compétences l'arrivée d'une jeune femme qui est arrivée pour nous aider sur des questions de recherche de fonds, parce que notre école ne vit que de dons, enfin à 80% de dons, de façon à ce que ce ne soit pas trop onéreux pour les familles. Eh bien, il faut que des grands donateurs puissent, faire vivre l'école. Et à cette fin, nous étions en contact avec Passerelle et Compétences pour, effectivement, un mécénat d'une personne qui était amenée à rechercher de l'argent pour faire vivre l'école.
Donc vous avez, en fait, les élèves ont plein d'adultes référents dans votre école. Il y a les enseignants, il y a le personnel encadrant qui est à la fois bénévole, à la fois la direction.
Oui. C'est très étonnant. Ce qui est très touchant, je trouve, la première fois que je suis rentré dans ce type d'école, c'est que c'est la confiance naturelle qu'ont les enfants à l'égard des adultes. Vous rentrez dans une cour de récréation en tant qu'adulte, et bien vous allez avoir des enfants qui peuvent avoir 6 ou 7 ans, ou 8 ans, qui vont venir vous dire bonjour madame, bonjour monsieur, et qui vont vous parler. Moi, la première fois, c'était une jeune fille, c'était à Marseille, parce qu'il y a 18 écoles en France de ce réseau, à Toulon. Et il y a cette petite fille qui vient me voir et qui me dit d'emblée, alors que je ne l'avais jamais vue, moi, quand je serai grande, je voudrais être journaliste. Et elle me déroule tout son projet. Elle ne m'avait jamais vu. Elle m'a parlé de ses projets.
Ils sont plus à l'aise avec l'adulte. Ils appréhendent moins d'échanger avec l'adulte.
Alors, je ne dirais pas moins, parce que je n'aurais pas, une fois de plus, l'arrogance de comparer. En tout cas, ils n'ont pas de crainte à l'égard de l'adulte, parce qu'effectivement, ils ont une confiance naturelle et forte en adulte.
Et là, par exemple, au cours Charlemagne, à Argenteuil, en termes de bénévoles, vous avez combien de bénévoles dans la structure ?
Alors, on en va avoir une dizaine de bénévoles. Si je prends la totalité des bénévoles, on va être à une dizaine de bénévoles. Il y en a 4 qui sont là à temps plein. Et à l'intérieur de ces bénévoles, on a 2 personnes qui sont sous le statut de service civique. Et qui sont là bénévolement, mais qui d'ailleurs s'orientent vers l'enseignement. Après un an au sein de l'école, ils souhaitent se tourner vers l'enseignement pour leur avenir. C'est deux jeunes hommes qui ont 23 ans, et on a également 2 jeunes femmes qui se destinent, enfin au moins pour l'une d'entre elles, également à l'enseignement.
Et en termes de coordination d'équipe, vous avez à la fois les enseignants, les bénévoles. Est-ce que c'est les mêmes réunions, les mêmes coordinations, les mêmes, sachant qu'un bénévole a un statut toujours particulier dans une structure? Est-ce que les réunions que vous les faites en collectif? Est-ce qu'il y a un accueil spécifique pour les bénévoles?
Bah, tout le monde a absolument conscience du caractère clé des bénévoles. Ils sont dans tous les groupes WhatsApp du primaire et du collège. Ils font partie de l'équipe et on ne pourrait pas faire ce que l'on fait aujourd'hui sans eux. Je le dis sans aucune flagornerie, ils sont admirables, ils sont incroyablement engagés et on a une chance incroyable de les avoir avec nous.
Merci Hugues, je vous propose de poursuivre notre conversation juste après avoir écouté Respire encore de Clara Luciani. À tout de suite sur IDFM. Sur IDFM, en compagnie d'Alain Tuileau, responsable associé de Passerelle et Compétences, Carole Martin, directrice du pôle insertion de l'Ars 95, et Duc de Valavieille, directeur du cours Charlemagne. À vous, Carole. Vous dirigez le pôle insertion de l'Ars 95, qui a, je crois, trois pôles.
Oui, c'est ça. L'association est composée de trois pôles. Rapidement, autour de trois thématiques. Alors, historiquement, la question de l'hébergement et du logement. Le second pôle, qui est un pôle qui accompagne des personnes qu'on dit sous main de justice, donc très en lien avec les tribunaux. Et puis, le pôle que je dirige autour des questions d'accompagnement social et d'insertion de personnes bénéficiant du RSA et d'autres dans le cadre de chantiers d'insertion.
Et alors, comment vous avez rencontré Passerelle et Compétences? Est-ce que c'est eux qui sont venus vous voir? Est-ce que c'est vous qui les avez sollicités?
On a rencontré Passerelle et Compétences parce qu'on a créé, il y a un peu plus de 2 ans, une recyclerie textile qui s'appelle Coups Humains. Et à cette occasion-là, on avait besoin de créer une identité graphique pour cette recyclerie, à la fois un logo et puis tout ce qui en découle. Et grâce à Initiative 95, on a été mis en relation avec Passerelle et Compétences, qui a mis à disposition pour nous 2 personnes. Karima, qui a travaillé avec nous tout l'aspect communication, comment, quel message on avait à passer, etc. Et puis Marianne Colombani, graphiste, qui a créé pour nous le logo. Et je crois d'ailleurs que Karima est à la recherche d'un poste en ce moment, c'est ça ?
Pour moi, elle a trouvé. C'est effectivement pour nous un succès parce que Karima était en recherche d'emploi et durant sa phase de recherche d'emploi, elle a décidé de faire du bénévolat, ce que l'on essaie de promouvoir auprès de l'APEC et de Pôle emploi, hein, parce que faire du bénévolat quand on est en recherche d'emploi, ça permet de maintenir les contacts et de développer ses compétences. Voilà, je ne développerai pas plus ou alors je peux en parler pendant un quart d'heure.
Et alors, comment ça s'est passé cet accueil de bénévoles? D'abord, toutes les deux, elles sont intervenues combien de temps?
Alors, c'était sur des temps alors très différents. D'abord, il faut replacer ça dans un contexte. On était en plein, on était toujours entre deux confinements. Donc, ça s'est fait parfois à distance, parfois en visu, avec Karima sous forme de réunion pour travailler à la fois à la baseline du logo, à la fois en fonction du message qu'on souhaitait passer, quelles étaient les valeurs qu'on voulait porter et comment les porter de manière le plus efficacement possible. Donc, avec Karima, sur plusieurs temps d'échange, plusieurs demi-journées, on a travaillé ensemble. Je pense qu'on devait être à 4 demi-journées, quelque chose comme ça, plus les temps pour elle entre chaque moment de travailler. Avec Marianne Colombani, c'était un moment extrêmement magique et dingo parce que ça s'est fait à distance. Notre caméra marchait pas, donc on la voyait pas. On lui a expliqué ce qu'était Coups Humains. On lui a dit quelles étaient nos attentes autour du logo, de couleurs. Et en direct, elle nous envoyait des propositions par mail, qui étaient géniales. Et donc, en 25 minutes, le logo est né sous nos yeux.
Ah oui, quelle efficacité.
Sans péridurale.
Et alors du coup c'était rapide. Est-ce que vous avez échangé avec Passerelle et Compétences avant? Est-ce que comment?
Bah, tout du long. En fait, d'abord au départ, avant de pour qu'ils puissent nous mettre en contact avec Karima et Marianne, on a eu beaucoup d'échanges pour qu'ils comprennent, comme expliquait Alain, hein, nos attentes, qui on était, ce qu'on cherchait, quels étaient nos besoins, etc. Et puis après, je pense que d'abord la mise en relation, elle s'est vraiment faite via Passerelle et Compétences. On était accompagné par Bernard, donc qui était là lorsqu'on a été mis en relation.
Ah oui, le premier rendez-vous.
Voilà, le premier temps d'échange, il se fait en compagnie de Bernard et de Karima et de Bernard et Marianne. Et puis on a eu des temps aussi à la fin pour savoir comment ça s'était passé, si on était satisfait. Et je pense que la même chose s'est faite du côté de ces femmes qui nous ont accompagnées. Donc c'était très confortable pour nous. Et puis c'est un outil, enfin l'identité graphique d'une structure, notamment comme une recyclerie textile qui a quand même une vitrine, je dirais, auprès d'un public extérieur, c'est essentiel. Donc presque, je pourrais dire que je pense à Passerelle et Compétences tous les jours, parce que moi, je vois le logo tout le temps. Et c'est quelque chose qui est... pour nous, c'était une vraie richesse, parce que dans le milieu associatif, on a rarement et on n'a même jamais de chargé de com. On n'est pas graphiste, donc on bricole chacun dans notre coin. Et là, pour cette structure-là, on avait besoin et envie de quelque chose qui soit professionnel, qui ait une vraie patte et qui nous permette de travailler sur cette question de communication dont on décelait que ça allait être essentiel. Et aujourd'hui, après un peu plus de 2 ans d'existence, ça se confirme, donc on est ravis.
Et alors, les modalités d'intervention des bénévoles dans les associations, Alain parlait d'une convention. Est-ce que les modalités d'intervention, elles sont précisées à ce moment-là? Ça sera 2 heures par semaine et pas plus. Après, il faut voir où c'est plus souple.
Non, enfin moi j'ai pas souvenir qu'on nous ait dit un top départ. Non, c'est vraiment
en fonction des disponibilités.
Oui, et puis je pense que c'est là aussi où Passerelle et Compétences intervient si jamais il y a des accros, mais nous on n'a pas du tout connu ça, il n'y a pas eu du tout d'accros, donc c'est vrai qu'on savait quel temps pouvait nous dédier Karima. À chaque fois on vérifiait que c'était OK pour elle et que nous on était dispo aussi en fonction des besoins qu'elle avait pour échanger avec elle. Et puis Marianne, je vous dis, ça s'est fait très très vite. Alors après c'est marrant, c'est que moi je suis restée en relation avec Marianne, qui est une artiste et qui a plein de choses à proposer, donc je suis assez friande du personnage et de ce qu'elle propose, mais vraiment en dehors de la vie de Coups Humains, même si elle suit aussi de loin ce qui se passe.
Et au sein de Coups Humains, et peut-être plus globalement de l'Ars 95, est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec des bénévoles ?
On l'apprend. Donc, ça fait quelques années sur les différents pôles qu'on accueille quelques bénévoles. Donc, pour parler du pôle insertion, on a aujourd'hui trois bénévoles. Deux qui sont retraités, un bénévole étudiant. Et on a une personne, comme on parlait tout à l'heure, en mécénat de compétences. Donc lui met à disposition de son association sur les deux, enfin pas de son association pardon, de son employeur qui est pas du tout une association, c'est une grande banque française et qui est mis à disposition en fait sur les deux dernières années de sa vie active à temps plein pour le pôle insertion comme chargé de mission insertion. Donc c'est une ressource inestimable.
Type de bénévolat différent au sein du pôle. Alors,
je voulais juste apporter une petite précision sur l'engagement des bénévoles. Au moment où on reçoit l'association, on cadre son besoin et on définit avec l'association à peu près quelle devrait être la charge de travail pour mener la mission. Donc c'est une discussion qu'il y a au début de la mission. Et très souvent, on demande au bénévole qui va prendre la mission de faire ce qu'on appelle une feuille de route, c'est-à-dire de discuter avec l'association des modalités d'intervention, de sa disponibilité et comment interagir avec l'association. Donc c'est ça qui nous permet de dire qu'on propose un engagement à la carte à nos bénévoles, c'est-à-dire qu'ils modulent leur intervention en fonction de leur disponibilité en accord avec l'association.
Et alors, est-ce qu'une association peut faire appel ? Alors, je vous avais posé la question, Alain, dans l'autre sens. Est-ce qu'un bénévole peut ou a une tendance à reconduire son engagement ? Est-ce qu'à l'inverse, une association peut faire appel à Passerelle et Compétences plusieurs fois ?
Écoutez, oui, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on essaie de promouvoir. C'est-à-dire qu'on maintient un contact régulier avec les associations qui adhèrent. En faisant un point sur les missions, la façon dont elles se sont passées, quels sont les besoins. Et donc, oui, les associations souvent renouvellent leurs demandes et ça débouche sur plusieurs missions.
Merci beaucoup Alain, Carole et Hugues d'être venus nous présenter vos associations et nous raconter comment le bénévolat prend forme chez vous. Après vous avoir écouté, il me semble difficile de douter encore de l'importance des bénévoles au sein des associations, de la place structurelle et précieuse qu'ils occupent et qui permettent de réaliser des projets cohérents. Sur mesure, on l'a vu avec vous, avec souvent beaucoup d'enthousiasme et d'engagement. On arrive à la fin de cette émission. Mais avant de se quitter, comment peut-on tous vous contacter ? Alors, passerelle et compétences, Alain. Comment on peut vous joindre ?
valdoise@passerellescompetences.org. Voilà, on a un site. Vous allez sur ce site-là et vous laissez un message et on vous recontacte. Voilà le point de contact principal.
Alors, pour ma part, vous pouvez me joindre au 06 26 87 94 97. Mon adresse mail, c'est c.martin@ars95.fr. Donc, je ne cache rien. Sinon, il y a un site internet ars95.fr. On recherche en ce moment à recruter pour juin et juillet un étudiant avec le permis sur coûts humains. Donc, n'hésitez pas.
Merci. Et Hugues ?
Eh bien, nous sommes joignables par email à l'adresse contact@courcharlemagne.com ou bien au 07 77 11 10 73 et nous accueillerons avec plaisir les curieux qui s'intéresseraient à l'école. Je me permets juste de dire que nous cherchons de façon urgente un ou une orthophoniste, pas forcément bénévolement. Voilà, merci beaucoup.
Donc association, vous avez un besoin, bénévole, vous voulez vous engager, contactez Passerelle et Compétences sur notre site www.passerellescompetences.org ou alors notre mail valdoise@passerellescompetences.org. Voilà.
Merci, j'ai été ravie de partager cette heure avec vous.
Merci à vous.
Merci à beaucoup, vous. Merci.
Un grand merci également à Francky et à la technique de cette émission. Tout de suite, retrouvez l'émission Chansomania animée par Seb Dill. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.